Bonjour à tous et à toutes. Merci à l'équipe qui nous a conduits dans la première partie de ce culte. Je pense que nous connaissons maintenant cette phrase par cœur. Malheureusement, nous n'avons pas encore fini de l'entendre. Tout est vanité, absolument vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité au plus haut point. C'est ce que le maître de sagesse qui s'exprime dans le livre de l'Ecclésiaste constate en examinant avec lucidité la réalité de la vie, la réalité de notre condition humaine qui est marquée par le péché et ses conséquences. Pour le dire autrement, toutes les expériences en quête de bonheur et tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour tenter de transformer, de changer, ou de s'affranchir, d'échapper à la condition humaine, tout est vain, futile, dérisoire, éphémère. Pour en arriver à cette conclusion, nous l'avons vu lors des deux précédents enseignements, l'Ecclésiaste nous a fait part de plusieurs tentatives pour trouver le bonheur. Déjà au chapitre 1, versets 12 à 18, il a mentionné la recherche du bonheur par la recherche de la sagesse, de la connaissance, du savoir. Bilan de sa recherche, c'est vanité, autant courir après le vent. Au début du chapitre 2, les versets 1 à 11, l'Ecclésiaste nous a fait part de la recherche du bonheur par le moyen de la fuite dans les plaisirs de la vie, le rire, le vin, les grandes réalisations, tout ce qu'on peut s'offrir avec des richesses, etc. Bilan de sa recherche, c'est vanité, autant courir après le vent. Nous en sommes dans la première grande partie de son livre, qui va du chapitre 1, verset 12, jusqu'à la fin du chapitre 6. L'Ecclésiaste décrit la réalité, le monde qui l'entoure. Et quelle est la suite donc de son discours? Et je vous invite pour cela à lire dans Ecclésiaste, chapitre 2, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les versets 12 à 26 qu'on va découper en deux temps. Tout d'abord, les versets 12 à 23. Le texte s'affiche ici, mais vous pouvez bien sûr lire dans votre Bible. Versets 12 à 23. Puis j'ai considéré et examiné la sagesse ainsi que la folie et la déraison. Qu'en sera-t-il de l'homme qui succédera au roi ? Il fera ce qu'on a déjà fait par le passé. J'ai alors constaté que la sagesse est plus avantageuse que la déraison, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai bien dû reconnaître qu'un même sort attend l'un et l'autre. Et je me suis dit en moi-même, je vais connaître le même sort que l'insensé, mais à quoi bon avoir été plus sage ? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était vanité. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé, et dans les jours à venir, tous deux tomberont dans l'oubli. Car le sage mourra aussi bien que l'insensé. J'en suis donc venu à prendre en dégoût la vie, car toute l'œuvre qui se fait sous le soleil m'est apparue mauvaise, parce que tout est vanité, autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tout le travail pour lequel j'ai trimé sous le soleil et dont je devrais laisser le fruit à mon successeur. Car qui sait s'il sera sage ou insensé ? Pourtant, c'est lui qui sera maître de tout le travail pour lequel j'ai trimé et réalisé avec sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Alors, j'en suis arrivé à désespérer en pensant à tout le travail pour lequel j'ai trimé sous le soleil. Car voici, un homme a accompli son travail avec sagesse, compétence et habileté, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi est vanité. Et c'est un grand malheur. Car que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil ? Ses journées lui apporte bien des tourments. Ses occupations lui occasionnent bien des sujets d'affliction. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. Cela aussi est vanité. L'Ecclésiaste en vient à se poser la question, mais finalement, la sagesse vaut-elle vraiment la peine ? Et il répond en trois temps. Déjà, premier temps, dans les versets 12 à 17, l'Ecclésiaste compare la sagesse et la folie. Finalement, puisque ni l'un ni l'autre ne permettent, on l'a vu hein, par le texte précédent, ne permettent de s'affranchir de cette condition humaine, peut-être que quand même, il y en a un qui a plutôt l'ascendant sur l'autre, un qui a l'avantage par rapport à l'autre. Et il conclut quand même assez rapidement, et c'est heureux. Au verset 13, « J'ai alors constaté voilà, que la sagesse, elle est plus avantageuse que la folie, la déraison. Elle présente quand même bien des avantages. Elle est préférable parce qu'une personne sage peut naviguer entre les obstacles et les dangers de la vie avec quand même plus d'efficacité que l'insensé. » L'Ecclésiaste utilise la métaphore de la vue ici. Le sage, c'est comme quelqu'un qui marche les yeux grands ouverts. Le texte original dit qu'il a ses yeux dans sa tête, littéralement. Une manière, on traduirait, il a les yeux en face des trous. Il voit clair. L'insensé, quant à lui, il ne se préoccupe pas de la sagesse. Il n'en a que faire. Il la rejette. Et par conséquent, l'insensé, lui, marche dans les ténèbres. Il ne voit pas les obstacles ni les dangers qui se dressent sur son chemin. Et même, il ignore comment éviter tout cela. Pas de doute, la sagesse vaut quand même bien mieux que la folie et la déraison. Elle est d'un grand secours pour bien se conduire et se diriger dans la vie. Par ailleurs, il faut noter, et on s'en souvient, l'Ecclésiaste, s'il a pu faire et dresser tous ses bilans, toute cette expérience, etc., c'est parce qu'il a usé de sagesse. Au chapitre 2, verset 9, dans tout ce passage où il se lançait dans la folie pour voir si ça pouvait mener quelque part, il disait au verset 9, « En tout cela, la sagesse m'assistait. » Mais il mentionne quand même un bémol dans l'équation, dans la suite du verset 14, ici. « J'ai bien dû reconnaître qu'un même sort attend l'un et l'autre, le sage et l'insensé. » Les deux vont mourir. Pour le dire autrement, la sagesse peut aider une personne à bien se diriger dans la vie, mais elle ne peut pas lui épargner ce sort final qu'est la mort. Alors, verset 15, « Je me suis dit en moi-même, je vais connaître le même sort que l'insensé, à quoi bon avoir été plus sage ?» Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était vanité. C'est vanité, c'est futilité, c'est décevant, c'est éphémère, c'est frustrant. À quoi bon avoir été plus sage ? De toute façon, le sort est le même. Ça vaut pour tout homme ici, celui qui ne croit pas en Dieu, tout comme celui qui croit en Dieu. Et l'Ecclésiaste, je le rappelle, c'est un croyant qui s'adresse à des croyants. Mais force est de constater que sage et insensé, tous deux vont tomber dans l'oubli, comme dit le verset 16. Les deux vont tomber dans l'oubli. Quelle frustration ! Et l'Ecclésiaste exprime son exaspération par une parole qui est très forte. « J'en suis venu, verset 17, à prendre en dégoût la vie. Car toute l'œuvre qui se fait sous le soleil m'est apparue mauvaise, parce que tout est vanité, autant courir après le vent. » Il faut se rendre à l'évidence que nous allons devoir quitter ce monde sans emporter avec nous tout ce que nous aurons réalisé, tout ce que nous aurons acquis tout au long de notre vie, même les choses réalisées avec sagesse, même les choses qui auront porté beaucoup de fruits pour la vie présente. Comme on dit, le linceul n'a pas de poche. Peut-être serions-nous tentés de se consoler avec ce qu'on va laisser, mais la consolation est maigre. Autant nous n'allons rien emporter, autant force est de constater que nous n'allons pas finalement laisser grand-chose. Quelle vanité! Que reste-t-il de notre œuvre 2, 3 générations après nous? En particulier chez les générations qui ne nous ont pas connus. Tout le monde ne s'appelle pas Mozart ou Beethoven. Pour toutes ces raisons, l'Ecclésiaste en est venu à prendre la vie en dégoût. Parce qu'au fond de lui, il aime la vie. Il aime la vie. Il a conscience que la vie est un don de Dieu, mais malheureusement, la vie est en deçà de ce qu'elle devrait être. Dieu nous a créés pour la vie et non pas pour la mort. Et quand l'Ecclésiaste voit ce qu'est l'existence humaine, la condition humaine marquée par le péché, il se dit « mais c'est un terrible gâchis ». Ce n'est pas pour ça que nous avons été créés. Bilan de ces versets 12 à 17. La sagesse, oui, elle vaut la peine, mais elle est bonne, mais le sage meurt comme l'insensé. C'est ce bémol qu'il mentionne ici. Mais elle est bonne quand même. Elle vaut le coup. Elle vaut la peine. Deuxième partie de sa réponse, dans les versets 18 à 21, où l'Ecclésiaste revient sur le bilan qu'il avait dressé au sujet de tout le labeur pour lequel on se donne tant de peine, pour lequel on trime, comme on dit dans notre vocabulaire aujourd'hui, sous le soleil. Verset 18, « J'ai fini par prendre en dégoût », là encore, il prend en dégoût non plus la vie maintenant, mais le travail pour lequel j'ai trimé sous le soleil et dont je devrais laisser le fruit à mon successeur. Tôt ou tard, chacun va devoir quitter ce monde et abandonner le fruit de son travail à un autre, à d'autres, à un successeur, à des successeurs. Et l'Ecclésiaste, on s'en souvient, il dépeint ce sage ici qui s'exprime dans le livre comme quelqu'un qui a les traits de Salomon. Et il se souvient que le successeur de Salomon n'a pas fait que des bonnes choses. Si Salomon a, lui, usé de sagesse pour que son royaume demeure en paix et demeure dans l'unité, le successeur immédiat de Salomon, un certain Roboam, lui s'est très mal comporté. Et il a mené le royaume à une scission, à une division entre le royaume du nord et le royaume du sud, Israël au nord et Juda au sud. On lit cela dans 1 Roi, chapitre 12. Et les successeurs encore après lui, après ce Roboam, à part peut-être quelques-uns qui sont un peu sortis du lot et qui ont apporté un peu d'éclat quand même dans le royaume de Juda, mais sinon la plupart des successeurs n'ont guère fait mieux que Roboam. Ils n'ont pas marché dans les pas de leur prédécesseur David. Ils ont précipité le royaume dans le déclin au point que 4 siècles après, il n'y a plus personne. Tout le monde était en exil. Et les prolongements qu'on peut faire avec nous aujourd'hui sont réels et pertinents. Une personne a travaillé toute sa vie dans une entreprise, dans une association, dans une œuvre quelconque. Et puis à son départ, que ce soit pour la retraite ou changement de poste, pardon, elle forme une, voire 2 autres personnes pour prendre sa suite. Et il n'est pas rare que le successeur mette tout par terre à cause de mauvaises décisions ou faute de compétences ou parce qu'il ne sait pas gérer convenablement l'affaire. Ça vaut aussi pour les églises, pour les œuvres chrétiennes. Un pasteur s'en va, un autre arrive. Mes parents parlaient de ça. Et une église qui avait été fondée sur un enseignement solide, avec un certain zèle, un dynamisme, peut être complètement amenée à dévier sur le plan doctrinal, ce n'est pas prophétique ce que je dis là, hein. Ou se refroidir dans son zèle pour le partage de l'évangile dans le monde, dans le quartier, dans la ville. Alors par la grâce de Dieu, et fort heureusement, il arrive aussi que les successeurs fassent même mieux que les prédécesseurs, et tant mieux, et gloire à Dieu. Mais ça ne se passe pas toujours comme cela. Parce que, verset 19, qui sait s'il sera sage ou insensé? Pourtant, c'est lui, ce successeur, qui sera maître de tout le travail pour lequel j'ai trimé et réalisé avec sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Que c'est dur de se dire qu'on se sera donné tant et tant de mal pour ensuite risquer de voir le produit de son travail, de son labeur, être envoyé à la poubelle par un successeur qui sera peu scrupuleux. Et l'Ecclésiaste prolonge sa frustration avec les versets 20 et 21 ici que je ne relis pas mais que je mets en bleu. Où là, il désespère maintenant de son travail. Avec la répétition, j'ai trimé sous le soleil. Il y a beaucoup de répétitions dans le livre de l'Ecclésiaste. On en parlait d'ailleurs dans les groupes de quartier cette semaine, dans les groupes d'études bibliques, pardon. Ces répétitions sont là comme pour entériner l'échec ou pour rappeler ce cycle répétitif et souvent aussi rébarbatif et frustrant de la vie, de la condition humaine dans laquelle nous sommes. Pour le dire autrement, ici avec ces versets 20 et 21, non seulement on ne sait pas ce que le fruit de notre travail va devenir entre les mains du successeur, mais en plus, le successeur, il ne s'est donné aucune peine. Il hérite juste du bébé, et puis, voilà, il n'a pas l'histoire de comment les choses se sont réalisées, comment on en est arrivé là. Que c'est frustrant. Parce que, en fait, ce qui donne de la valeur au travail, c'est toute la peine qu'on a exercée, qu'on a mise en œuvre pour arriver à cela. Ce qui compte, ce ne sont pas tant les résultats obtenus, mais ce sont les chemins empruntés pour arriver. Quelle que soit notre activité, celui qui nous succédera va simplement devenir maître du fruit de notre travail. Il pourra en fait faire ce qu'il veut. Et en plus, il n'aura pas expérimenté toute la peine pour en arriver là, à ce fruit dont il hérite. Et donc, il n'aura pas non plus la même préoccupation s'il venait à échouer. Au fond, ça ne lui a rien coûté. Bon, tant pis. C'est le mur, tant pis. Et c'est un grand malheur, comme l'Ecclésiaste le dit à la fin du verset 21 ici. Quel grand malheur! Cela aussi est vanité. Essayons d'illustrer un peu tout cela. Albert Solanas, ici présent, est en train de rédiger un livre qui retrace les grandes lignes de la vie de l'Église évangélique baptiste de Nîmes. On en est d'ailleurs au stade de la relecture. Il y a plusieurs yeux avisés qui sont en train de relire tout ce travail d'écriture d'Albert. Petite question d'ailleurs, est-ce que vous savez quel âge a notre Église ? Non. Non, elle avait 125 ans il y a 3 ans. Donc elle en a plus. Elle en a 3 de plus. 128 ans. Vous vous rendez compte ? Mais bon, on n'était pas loin. 128 ans. Et alors je me permets très modestement de dire notre Église. Je m'inclus dedans, mais j'ai conscience de n'en faire partie que depuis à peine 6 mois. Et j'ai conscience que là, dans l'auditoire, il y a des personnes qui peuvent dire notre Église depuis des dizaines d'années. Cette semaine, nous avons fêté les 90 ans de Lydia. Ça fait 45 ans, la moitié de sa vie, que Lydia est dans cette église. Ce livre qu'Albert rédige peut servir bien des buts. Je ne vais pas être exhaustif, mais bien sûr, cela permet de montrer comment notre Dieu a manifesté sa gloire au sein de notre église, qui a vécu des jours heureux, qui a vécu aussi des périodes plus difficiles, et comment le Seigneur a permis que l'œuvre continue ici, le témoignage continue ici, dans cette ville de Nîmes, dans ce quartier, etc. Un autre but, ce livre permet aussi de faire perdurer l'histoire de cette Église, dans le but de nous inviter à nous inscrire dans cette histoire. Que l'on soit arrivé comme moi il y a à peine 6 mois, ou que l'on soit là depuis des dizaines d'années. Quand on arrive dans une église qui est nouvelle pour nous, c'est important de se soucier, de s'informer, de connaître quelle est l'histoire de l'église. Comment y est enseignée la parole de Dieu ? Dans le cadre du culte, dans l'école du dimanche. dans les groupes de quartier, les études bibliques? Comment l'Église vit-elle la communion fraternelle? Comment fonctionne sa gouvernance? Quelle est sa vision pour le partage de la bonne nouvelle de Jésus au monde? Comment envisage-t-elle l'action sociale, solidaire? Comment s'implique-t-elle dans la ville? Quel est le profil d'ailleurs de la ville et du quartier dans laquelle l'Église est implantée? Et on peut rajouter encore comme cela des questions, autant de questions qui nous aident finalement à connaître l'ADN de l'Église, pour nous inscrire dans ce qui anime l'Église, pour y prendre part nous-mêmes, pour nous inscrire à la suite de cette histoire. Je remercie Dieu, et je ne suis pas le seul à le faire, de ce que le 5 novembre dernier, à l'occasion de cet après-midi, le dimanche après-midi commémoratif des 30 ans dans ces locaux ici, chemin de la Combe des Oiseaux, il y avait pratiquement la salle pleine de personnes qui étaient là pour commémorer, pour revisionner ces deux petits films sur le dernier culte à la rue Vespasien en 91, la mise en place de la croix ici en 2002. Voilà, toute cette partie commémorative, et c'était important de voir que mais il y avait aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui n'étaient pas là à ces occasions, mais qui étaient en souci de se dire « je veux savoir, je veux connaître ». J'étais pas là, mais je fais partie de cette histoire. Continuons de nous intéresser à notre Église. Parce que derrière cela, nous nous intéressons à Dieu qui œuvre dans l'Église, avec nous. Et nous prenons part à son œuvre. Plus que cela, continuons de nous impliquer dans l'Église. Ensemble et avec l'aide de Dieu, nous écrivons la page suivante dans ce livre qu'Albert a écrit là. Et un autre, dans peut-être 20 ans, 30 ans, voilà, ce sera les 150 ans, on aura des pages supplémentaires à rajouter à ce livre. Continuons d'écrire ensemble, pour que notre église, continue de rendre gloire à Dieu, pour que notre Église continue de prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour que notre Église continue de faire du bien dans le quartier et dans le monde qui l'entoure. Pour que notre Église ne soit pas la proie de successeurs qui voudraient plaquer sur l'Église leurs propres envies à eux, leurs propres aspirations, sans chercher à s'inscrire dans ce qui a motivé l'Église à adorer le Seigneur de telle et de telle manière, sans chercher à s'inscrire dans ce qui fait l'ADN de l'Église, dans sa piété, dans son enseignement, dans sa communion fraternelle, etc. Même une Église florissante, zélée, pour le partage de l'Évangile. Même une Église comme cela peut être menacée de division, voire d'extinction par la génération suivante. Chaque génération a besoin de relire l'histoire pour s'imprégner du passé, pour tirer le son du passé et écrire la page suivante avec l'aide du Seigneur et en suivant sa parole. Bilan des versets 18 à 21. La sagesse est bonne, mais le sage laisse le fruit de son labeur à un autre, dont il ignore s'il sera sage ou insensé, et dont il ignore s'il s'inscrira dans l'existant ou s'il n'en fera que à sa tête. Et ce que je dis, ça ne vaut pas que pour les dirigeants dans l'Église. Ça vaut pour quiconque. Pour reprendre l'expression trouvée dans un commentaire, je cite, « Parmi les réalisations, aucune, pas même les plus grandes et les plus dignes d'admiration, n'est à l'abri du rouleau compresseur du temps et des générations à venir. » Parmi les réalisations, aucune, pas même les plus grandes et les plus dignes d'admiration, n'est à l'abri du rouleau compresseur du temps et des générations à venir. Nous continuons. Troisième partie de sa réponse à la question « Est-ce que la sagesse vaut finalement la peine ?» L'Ecclésiaste dit dans les versets 22 et 23 « Que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil ? Ses journées lui apportent bien des tourments, ses occupations lui occasionnent bien des sujets d'affliction. Même la nuit il ne trouve pas de repos. Cela aussi est une vanité. On travaille pendant des heures, des jours, des semaines, des années pour finalement, bien souvent, profiter très peu du fruit de son travail. Pensez au temps qu'il faut aux musiciens, aux groupes de soutien au chant, pour préparer la fête de Noël la semaine prochaine. Ils ont répété hier, ils vont encore répéter. Pour finalement un chant qui va durer 3 minutes. Un ensemble, un spectacle qui va durer quoi, 1h30. Dans un registre complètement différent, et je vais exprès passer de registres complètement différents ici à d'autres, quand je pense à tout l'entraînement qu'il faut pour courir un marathon, j'ai couru un marathon là cette année 2023, puis après j'ai levé le pied, et aujourd'hui je suis incapable de courir un marathon, parce que j'ai tout perdu, et il faut tout recommencer. Encore un autre registre, pensez au temps qu'il faut pour préparer et entretenir son jardin, son champ, saison après saison, quand on a la chance qu'il ne soit pas ravagé par des phénomènes climatiques ou autres. Et tout cela pour récolter parfois pas grand-chose. Pensez ensuite à tout le temps qu'il faut pour préparer un bon repas, entrée, plat, fromage, dessert. Et puis le temps qu'il faut pour l'avaler. Et on pourrait multiplier les exemples. Quand on met tout cela en perspective, on se rend compte qu'on ne profite finalement que peu de son travail, du fruit de son travail. Et puis en plus, c'est souvent à un autre que va revenir le fruit de ce travail. Et pour couronner le tout, quand bien même on pourrait profiter, eh bien la mort vient mettre un point final à notre profit. L'Ecclésiaste en conclut ici que si notre labeur peut apporter quelques joies et quelques satisfactions, il n'empêche que ça génère aussi bien des tourments, des sujets d'affliction, des termes qu'on a déjà vus hein, à la fin du chapitre 20 dans ce livre de l'Ecclésiaste. Et il n'est pas rare que les préoccupations qui sont liées à notre travail viennent aussi perturber nos nuits de sommeil et notre repos s'en trouve diminué. Qui peut dire, moi j'ai toujours eu des nuits superbes, même en pleine crise, au niveau de mon travail, de mon activité. Non, souvent les nuits sont malmenées. En même temps, nous étions prévenus au lendemain du péché d'Adam et Ève, Dieu avait annoncé la pénibilité du travail. On était prévenus. Bilan des versets 22 et 23. Oui, la sagesse est bonne. Mais le sage expérimente quand même des tourments et de l'affliction. Bilan des versets 12 à 23. La sagesse, oui, elle vaut la peine d'être exercée. Elle a bien des avantages sur la folie. Mais en même temps, l'Ecclésiaste relève qu'il y a des limites, qu'elle ne permet pas de transformer notre condition humaine. En fin de compte, la sagesse nous fait prendre d'un besoin plus grand encore. Et c'est ce que nous lisons dans les versets 24 à 26. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon manger, boire et se donner du plaisir dans son travail. Et je me suis rendu compte que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et qui peut jouir de quelque chose sans que cela ne vienne de lui, sous-entendu de Dieu? Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, il donne la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi est vanité, autant courir après le vent. On note quand même qu'il y a un changement dans la teneur ici. Il n'y a pas que des aspects négatifs. On est sur ce qu'on appelle dans le livre les refrains sur le bonheur. Et on est à ce premier refrain sur le bonheur, et il y en aura encore d'autres, qui montrent que l'Ecclésiaste, il y a quand même des choses optimistes, positives dans la vie. Le travail procure quand même de la joie. Le fait de manger, de boire, de se donner même du plaisir dans son travail Par exemple, qui n'a jamais éprouvé la satisfaction du travail bien fait ? Je suis sûr que les étudiants, quand ils ont une bonne note, se disent « je suis récompensé, j'ai bien fait mon travail ». Qui n'a jamais eu le sentiment de dire « voilà, je me suis donné à fond, j'ai réalisé quelque chose, je me suis dépassé ». Si je reprends les mêmes exemples que j'ai cités tout à l'heure, toutes les personnes qui s'impliquent dans le soutien aux chants pour la fête de Noël, mais même toutes, petits et grands, musiciens, chanteurs, techniciens, décorateurs, metteurs en scène, eh bien, au bout de cela, il y aura un spectacle qui, c'est vrai, va durer 1h30. Mais l'Église aura accompli quelque chose de grand, aura fait quelque chose pour la gloire de Dieu, pour le partage de cette bonne nouvelle dont on veut rappeler. Jésus est venu dans le monde il y a 2000 ans et on veut le célébrer, on veut le commémorer. Et en ce sens, bien sûr que ça vaut la peine, ça vaut le coup. L'Église aura accompli quelque chose de grand. Et c'est beau de voir tous les groupes dans l'Église, chacun impliqué, s'impliquer. Je découvre ça avec émerveillement depuis quelques semaines. De voir toute l'Église qui se mobilise dans des petites, dans des choses plus grandes. Il y aura des gens avec un grand rôle dans la scène de la semaine prochaine et puis d'autres avec des petits rôles, mais tout le monde est important. Jusque derrière là-bas dans la technique, jusque dans l'accueil pour accueillir nos invités. L'autre exemple mentionné tout à l'heure, j'ai couru un marathon. C'est vrai, ça n'a pas changé ma vie. Mais j'ai éprouvé du plaisir à le faire. Et je me suis dit, là, j'ai eu l'impression d'accomplir quelque chose et de rendre gloire à Dieu pour ça. De même, il y a du plaisir à s'occuper de son jardin parce qu'on en récolte des fruits dont on va se nourrir ou dont on va faire profiter à d'autres. Merci Maud pour tout ce dont tu nous fais profiter. Et puis la personne qui a cuisiné pour ses invités, eh bien ça donne une satisfaction de faire plaisir, même si c'est vite avalé, bien souvent. Mais il y a du plaisir à l'avoir fait, à voir nos invités qui sont heureux. Et en ce sens, il y a du bon à se donner de la peine. Il y a du bon à recevoir dans le travail pour lequel on trime. C'est vrai, l'Ecclésiaste est lucide, il relativise. Toute cette peine n'apporte pas le bonheur avec un grand B. Mais cette peine permet quand même de profiter de ces petits bonheurs de la vie qui sont des dons de Dieu et il nous faut apprendre à les recevoir comme tels. C'est ce qu'il dit dans la fin du verset 24 et le verset 25 ici. « Je me suis rendu compte que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et qui peut jouir de quelque chose sans que cela vienne de lui ?» Je pense que l'Ecclésiaste, avant chaque repas, il remerciait Dieu. Et si nous remercions Dieu avant le repas aussi, si nous remercions Dieu pour le souffle de vie le matin en nous levant, si nous remercions Dieu à la fin de nos journées pour ce qu'on a vécu avec lui, c'est parce qu'on a conscient qu'il y a eu plein de petits bonheurs. Il a ouvert sa main tout au long de notre journée, de notre semaine, et on veut le célébrer, on veut le remercier, parce qu'on est conscient que ça vient de sa main. Jusqu'ici, l'Ecclésiaste a agi comme quelqu'un qui pense que le bonheur dépend de l'homme. Mais toutes les tentatives qu'il avait mentionnées ont montré que c'était un lamentable échec. C'est une erreur de penser ainsi. Le bonheur ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui octroie du bonheur. Je n'ai pas dit le bonheur, mais il octroie du bonheur dans et par notre activité. C'est une grâce qui nous vient de Dieu. Si Dieu n'accordait pas telle ou telle grâce, nous ne récolterions que peine, chardon et broussailles. Je ne vais pas le relire, mais Genèse 3, versets 17 à 19. Dieu avait prévenu. Mais il est bon de rappeler que Dieu est bon. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu est amour. Dieu est bon, il nous aime. Malgré le péché qui sévit dans le monde, Dieu nous aime et il nous accorde ses grâces de bien des manières. Il nous dispense ses grâces et ses bontés, qui se renouvellent chaque matin. On aime le rappeler. Sachons les reconnaître. Sachons également les accueillir dans le contentement. Quand on remet notre activité et notre travail dans la bonne perspective, qu'on accueille ces petits plaisirs que Dieu nous donne dans sa grâce, eh bien, on apprend à ne plus vivre, comme si tous ces petits bonheurs du quotidien nous étaient dus. Et plutôt, on apprend à les accueillir comme une grâce de Dieu. On apprend également à mettre un frein à toute cette surconsommation dans laquelle nous sommes bien souvent, en tout cas dans laquelle notre société est. Autrement, si on n'apprend pas ces choses-là, on ne fait que de tenter de recréer son paradis, comme l'Ecclésiaste avait tenté de le faire dans le début du chapitre 2. En amassant plein de choses, en n'étant jamais satisfait, il en voulait toujours plus. Mais ça n'apporte pas vraiment la joie, le bonheur de faire cela. Accueillons les dons que Dieu nous fait dans sa grâce, et verset 26, cherchons à lui être agréable, cherchons à plaire à Dieu, car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, il donne la tâche de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi est vanité, autant courir après le vent. Agir avec sagesse, et on a vu que la sagesse est bonne, elle vaut le coup, hein ? Elle est bien meilleure que la folie. Agir avec sagesse, c'est pas facile ça. Agir avec sagesse, c'est chercher à plaire au Seigneur. Plus tard dans le livre, l'Ecclésiaste parlera de la crainte de Dieu, et d'ailleurs ce sera la conclusion de tout son livre. Je vous le donne en petit teaser, là. Ce sera la conclusion de tout son livre. La crainte de Dieu. Crains Dieu. Respecte-le. Honore-le. Le rends-lui gloire. La motivation derrière le fait de chercher à plaire au Seigneur, ce n'est pas en vue d'être sauvé. Je ne cherche pas à lui plaire pour faire de bonnes œuvres et recevoir son salut. Non, ça c'est le salut par les œuvres. Ce n'est pas le message biblique. Ce qui motive, c'est d'accueillir les petits bonheurs que Dieu nous fait dans sa grâce, et alors, en retour, on s'efforce de lui plaire, de lui dire notre reconnaissance, de lui exprimer, de le traduire par une vie de dépendance, de confiance à lui, de consécration. Dieu octroie le bonheur à qui il veut, et il ne se le laisse pas arracher. Ce n'est pas donnant-donnant avec Dieu, ce n'est pas « je fais une bonne œuvre » et il va me donner du bonheur. Ça ne marche pas. C'est du légalisme, cela. Dieu est celui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et dans le contexte agricole dans lequel l'Ecclésiaste s'exprime, la pluie était une bénédiction, hein. Mais l'Ecclésiaste attire ici notre attention sur le fait qu'on a quand même plus de chances de recueillir du bon dans la vie quand on s'efforce d'être agréable à Dieu, de lui plaire, d'agir pour lui, de lui rendre gloire, d'agir pour notre prochain, de faire du bien à notre prochain, plutôt que de vivre comme une personne qui n'en a que faire de Dieu, qui ne se préoccupe pas de Dieu. C'est ici que s'achève toute la section qui porte sur les tentatives pour tenter de changer, de transformer, de s'affranchir de notre condition humaine. Mais on le voit, l'Ecclésiaste ne nous laisse pas avec une note négative, selon laquelle la vie ne serait que misérable, décevante. En réalité, le manger, le boire, le fait de profiter aussi de ces petits plaisirs dans le travail, de ces petites choses qu'on peut récolter, ce sont autant de dons que Dieu nous donne nous accorde, nous octroie dans sa grâce, et que l'homme qui s'efforce de lui plaire peut recevoir avec joie et avec reconnaissance. C'est le premier refrain sur le bonheur, comme je le disais tout à l'heure, il y en aura d'autres, mais ça vient largement quand même contrebalancer avec tout le négatif, tout le côté vanité qu'il y avait jusque-là dans le discours de l'Ecclésiaste. Parce que la vie ne se résume pas à ces refrains que tout est vanité, et qui apparaît au tout début du livre et tout à la fin du livre, et qui se retrouve tout au long. Non, la vie ne se résume pas à cela. L'Ecclésiaste veut qu'on saisisse la vie, qu'on croque la vie, les bonheurs de la vie, qu'on les reçoive parce que c'est Dieu qui nous les offre dans sa grâce. Et donc ces refrains sur le bonheur attestent que l'Ecclésiaste ne voit pas la vie en noir. Quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, du début à la fin, et c'est pour ça qu'on va aller jusqu'à la fin du livre, arrivé à la fin, on ne sort pas son revolver en se disant « Ok, d'accord, il n'y a que ça à faire ». Non, au contraire. Ou alors c'est qu'on a très mal compris le livre. La vie apporte du mauvais, mais aussi du bon. Et l'Ecclésiaste veut nous aider à apprécier toutes ces bonnes choses qui nous viennent de Dieu, qui sont là au milieu de toutes les peines que l'on rencontre dans notre activité, dans notre travail, dans notre vie au quotidien. Il y a donc tous ces refrains sur le bonheur qui jalonnent le livre pour nous montrer qu'il nous faut apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à nous dans la confiance en Dieu. Et je pense que c'est important de rappeler encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est bon, Dieu est amour. Malgré le péché qui sévit dans le monde, Dieu est bon et il accorde ses grâces de bien des manières. Sachons les reconnaître. Dieu nous accorde des grâces et il nous a fait une grâce particulière. Parce que Dieu sait la condition humaine dans laquelle nous sommes. Il voit la misère de la condition humaine. Il voit le péché dans lequel l'être humain est englué. Et il a apporté la solution, là où aucune tentative humaine ne pouvait aboutir. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Le Fils de Dieu dont nous allons commémorer sa venue la semaine prochaine. Une venue qui remonte à il y a quelques 2000 ans. On l'a vu dans notre texte, des générations et des générations de personnes sont tombées dans l'oubli. Mais Jésus, lui, il n'est jamais tombé dans l'oubli. Pourtant, tout a été fait, déjà du temps de son vivant, pour le faire taire. On en a vu un extrait tout à l'heure avec la bande-annonce de la saison 3 de The Chosen. Tout a été fait pour tenter de le faire taire, pour lui faire ravaler ses paroles, pour lui faire changer ses paroles. Et puis même dans les siècles qui se sont succédés pendant ces 2000 ans d'histoire de l'Église, tant et tant de tentatives de diminuer Jésus, de rejeter Jésus, mais force est de constater que 2000 ans plus tard, on parle toujours de lui. Il y a même une série qui présente Jésus sur 7 ans, The Chosen. Jésus est celui qui nous donne cette espérance que la vie ne s'arrête pas à cette condition humaine misérable. Il nous donne cette espérance grâce à son œuvre extraordinaire de salut. Je lis un verset dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5 et le début du verset 6. « En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. » Jésus a offert sa vie en rançon. Il a payé là où nous ne pouvions pas payer. Il a agi là où toutes nos tentatives pour trouver le bonheur échouaient. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. S'il y a des petits bonheurs à saisir dans la vie présente, et il y en a, l'Ecclésiaste l'affirme clairement, le bonheur avec un grand B ne se trouve que en Jésus-Christ. Et nous serons au bénéfice de ce bonheur-là, au moment que Dieu aura choisi pour cela, lors du retour de Jésus. Et dans l'attente de cela, nous voulons dire, nous voulons redire, nous voulons rappeler l'histoire de Jésus. Et c'est ce que je vous invite à faire en vous levant, et nous allons chanter « Redites-moi l'histoire de Jésus ». Cette histoire que nous aimons, que nous chérissons, cette histoire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur.